mon corps me condamne, signe le cœur. Limbisa.
Radio de la paix, il est 12h. Journal du Midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Radio de la Paix. À la une de ce 12h, un projet de loi modifiant la loi portant code de la nationalité a été adopté hier par le Sénat ivoirien afin de lutter contre la fraude sur la nationalité. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, que nous écouterons dès l'entame de ce journal. Sur le continent, des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont tué au moins 25 civils dans la ville du Darfour Nord, selon une organisation. Et dans ce journal, nous aurons un dossier d'actualité relatif au Challenge APP Afrique, un concours de start-up en Afrique francophone lancé par France Média Monde et qui porte sur le thème « Le numérique au service des énergies vertes », un dossier proposé par Ghislain Koulibaly. Et puis en fin d'édition, l'invité de la rédaction, Dr Nguessan Bosson, Jean-Marie, sous-directeur de l'inspection et de la surveillance du marché pharmaceutique à l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP. Avec Jean-Claude Comé, reviendra sur la décision de sa structure d'interdire la fabrication et la vente des produits aphrodisiaques dénommés Atoté et La Paix. Voilà pour nos grandes lignes. Vie de nos institutions, c'est par ce sujet que nous ouvrons notre journal. Un projet de loi modifiant la loi portant code de la nationalité a été adopté hier mardi à Yamoussoukro à l'unanimité des membres de la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités du Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sansan Kambilé, revient donc sur l'importance de ce texte.
Le président de la République, dans sa volonté de lutter efficacement contre la fraude sur la nationalité, a décidé la mise en œuvre de plusieurs moyens d'action. Le premier moyen d'action a été la création d'un bureau central de la naturalisation, dédié exclusivement à la réception et à l'examen des demandes de naturalisation et comprenant en son sein tous les intervenants dans le processus de naturalisation. Ce processus échappe à tout intervenant extérieur au service concerné et à toute velléité de fraude. Le deuxième moyen d'action, c'est la lutte contre la fraude documentaire, notamment en matière d'état civil, point de départ de la fraude sur la nationalité. Le troisième moyen d'action est la lutte contre les mariages de complaisance, objet du présent projet de loi. Dorénavant, l'étranger qui épouse un Ivoirien ne pourra pas acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne. L'acquisition de cette nationalité par le conjoint étranger est soumise à certaines conditions essentielles, dont celle qui consiste à souscrire une déclaration à cet effet devant l'autorité compétente 5 ans à compter de la célébration du mariage. Ensuite, la preuve d'une vie en commun entre le conjoint étranger et l'Ivoirien qui matérialise en fait l'effectivité du mariage. Il faut dire que ce délai de 5 ans peut être amené à 3 ans en présence de 2 enfants du couple.
Vous écoutiez à l'instant Jean-Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, au micro de notre correspondant sur place, Émile Yao. Parlons d'autres choses, notamment le traitement de la thématique des incendies de gaz dans les points de vente et la mise en place d'un code de travail, un cadre de travail pour agir en synergie en vue de la protection des populations. Ce sont les objectifs de la rencontre initiée le 16 avril dernier par l'Office national de la protection civile à Abidjan. Les détails avec Jean-Claude Mabéa.
Cette rencontre vise à deux principaux objectifs, selon le directeur général de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, Amankou Kassi Gabin.
Nous sommes retrouvés pour mettre en place un cadre de travail, pour que nous puissions agir en synergie, pour que nous puissions protéger nos populations. Mais la rencontre visait non seulement à prendre des mesures pour renforcer les mesures de prévention et en deuxième lieu, édicter des mesures contraignantes pour tous ceux qui demandent à ouvrir un magasin.
La commercialisation du gaz domestique obéit donc à des règles de sécurité incendie, a expliqué le lieutenant-colonel Lavry Olivier Marcel, le directeur de la prévention et du contrôle à l'ONPC.
Le cas des dépôts de gaz nous emmène à avoir un bâtiment qui est sécurisé, qui est souvent en habitation, avec des murs coupe-feu au moins 2 heures pour permettre de contenir un incendie à l'intérieur de ce dépôt. Ces dépôts-là doivent être aérés. Aussi, il y a des normes d'installation du réseau électrique même dans ce dépôt. Il y a un ensemble de normes et pour ouvrir normalement un dépôt, il faut que ces dépôts-là soient détenteurs d'un certificat de sécurité incendie.
Le ministère du Commerce et de l'Industrie a quant à lui en charge le contrôle et la surveillance des prix de vente du gaz sur le marché, a précisé Aline Oba-Danon.
Le gaz est un produit réglementé par l'État de Côte d'Ivoire, dont le ministère du Commerce fait des missions sur le terrain pour veiller à ce que les prix soient véritablement respectés.
A noter que seul le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a en charge la délivrance des agréments aux distributeurs de gaz conformément à la réglementation en vigueur.
Et les 15 et 16 avril dernier, une dizaine de journalistes des agences des médias grand public en Côte d'Ivoire ont été formés dans un réceptif hôtelier d'Abidjan Cocody sur l'emploi inclusif et les droits inclusifs du handicap, une initiative de Site Saver, une organisation internationale qui propose des solutions pour la participation significative des personnes handicapées à l'éducation, à la santé et au marché du travail. Les précisions avec Jean-Mélène Bitti.
Sur le choix des journalistes pour cette formation, les explications avec Astoussa, directrice pays de Saint-Sever.
Nous avons voulu partager avec les journalistes ce document de politique de protection des personnes handicapées.
Salek Oulda Dad, chargée de plaidoyer chez Saint-Sever, revient sur le rôle des médias dans la communication sensible du handicap.
Les médias ont un rôle important à jouer. Un, pour déjà vulgariser la convention et les textes qui protègent les droits des personnes handicapées. Deux, à sensibiliser le grand public, les communautés sur certains nombre de pratiques préjudiciables. Et trois, c'est surtout se rappeler les engagements des États qui ont signé ces instruments.
Présent à cet atelier de formation, Dogo Raphaël, du FACI, a invité à la mise en place du comité interministériel du handicap.
Ce comité a pour rôle de développer la collaboration multisectorielle. Dans chaque démembrement de l'État, au niveau des différents ministères techniques, qu'un point focal soit nommé et que cette personne-là puisse servir de point de relais pour la mise en œuvre de la politique de ce ministère-là en faveur des personnes handicapées.
Écoutons la réaction de quelques journalistes après la formation.
Christelle Foïdé n'avait aucune notion sur les droits des handicapés. Je sais qu'il ne faut plus dire personnes en situation de handicap, plutôt les personnes handicapées.
César Ebroquet, en matière d'éducation, on ne parle plus d'école spécialisée. On parle d'inclusivité, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes handicapées soient dans les mêmes écoles avec tout le monde. Et il est important que le gouvernement prenne les dispositions pour que les enseignants soient mis dans les conditions pour former les personnes avec leur handicap.
Saint-Sever est présent dans 35 pays et surtout promeut le droit des personnes handicapées.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobeno Kwasi Adjumani, vient de remettre près de 2500 tonnes de semences et d'intrants aux producteurs de riz de Guiglo dans la région du Cavali. Cette remise de kits agricoles aux producteurs s'inscrit dans le cadre du lancement de la distribution officielle des kits agricoles dans le district autonome des montagnes afin d'aider à accroître la production vivrière. Stéphane Adams nous en dit un peu plus.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobeno Kwasi Adjumani, de prime abord, s'est entretenu avec les usiniers de transformation de riz du quartier Yaoundé sur l'approvisionnement et la performance de leur unité de transformation. Le gérant Moussa Bamba précise.
En termes de production, nous allons jusqu'à 400 à 600 tonnes par an. Les difficultés que nous avons, c'est l'accès au paddy. Les producteurs qui sont dans la zone font qu'un seul cycle, donc ils n'envoient pas assez de paddy.
Direction sur le périmètre du fleuve Nzo, des agriculteurs au travail qui reçoivent séance tenante des semences et des intrants des mains du ministre de l'Agriculture, Kobeno Kwasi Adjumani. Le président de la coopérative des producteurs de riz de Guiglo, Vasiki Doukouré, à la réception.
Avec ces intrants, je pense que nous serons mieux de produire de 5 tonnes à 6 tonnes à 7 tonnes.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobeno Kwasi Adjumani, justifie cette action.
Si cet espace est bien utilisé, on peut même aller jusqu'à
jusqu'à 1000 hectares. Vous savez, quand le président de la République nous demande d'être sur le terrain pour accompagner les producteurs, c'est la réalité. L'objectif ici, c'est de les accompagner, de leur donner des kits et de suivre le processus de production, c'est-à-dire la distribution, la production et puis la transformation suivie après de la commercialisation.
À noter que ce geste marque le lancement de la distribution officielle des kits agricoles dans le district autonome des montagnes. Stéphane Adams, des Guiglo, Radio de la Paix.
Rendons-nous à présent à Divo où 80% des jeunes issus de milieux défavorisés qui ont été équipés et mis en apprentissage d'un métier depuis 2 ans par l'ONG Save the Children ont abandonné en raison du manque d'argent de poursuivre leur formation jusqu'à terme, selon le président de la Chambre départementale des métiers de Divo, Cissé Losseni, que nous écoutons.
Il y a 2 ans de cela, nous avons fait un projet avec les ONG local ici, appuyé par CV Children pour la mise en apprentissage des enfants issus des familles défavorisées. Ce projet a suscité beaucoup d'espoir et le matériel, le kit a été offert par CV Children. Les maîtres formateurs ont eu au moins juste une petite subvention de 120 000 et la formation était pour 1 an, mais les artisans, la chambre avec les partenaires ont décidé de pousser la formation jusqu'à 3 ans pour que l'enfant puisse être autonome. Après nos évaluations, il va en rester au moins 20 dans tous les départements, sur une centaine. Les raisons sont énormes. Hein. Le bailleur qui était sur le projet n'est plus là. Il y a un autre bailleur qui est venu et qui n'a pas de moyens. Donc, pour le suivi et l'encadrement des enfants devient de plus en plus difficile. La chambre est là, il n'y a pas de moyens. Aucune chambre départementale n'a une subvention. Nous avons adressé un courrier au nouveau conseil régional, demandant une audience avec le président pour pouvoir échanger avec lui. On nous a appelé pour nous dire que le courrier est arrivé à bon port, qu'il allait nous recevoir. Nous sommes dans l'entente.
Vous venez d'entendre le président de la Chambre départementale des métiers de Divo, Cissé Losseni. Dans l'actualité sur le continent, des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont tué au moins 25 civils à El Fasher, ville du Darfour Nord, longtemps épargnée par les combats et où vivent de nombreux réfugiés, a affirmé mardi un comité d'avocats pro-démocratie et selon également une organisation non gouvernementale dénommée Emergency Lawyers qui documente les atrocités commises contre les civils depuis le début de la guerre, il y a 1 an, entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. De retour en Côte d'Ivoire pour retrouver Ghislain Koulibaly qui aujourd'hui nous propose un dossier d'actualité, Challenge APP Afrique, la finale de la 8e édition du concours de start-up en Afrique francophone lancé par France Média Monde a eu lieu le 3 avril dernier à l'Institut français d'Abidjan. Et cette année, les candidats ont compéti sur le thème « Le numérique au service des énergies vertes ». Le projet retenu est celui de Divin Kwaba Kuta, originaire de la République du Congo, qui a développé une green box intelligente permettant de lutter contre les pertes et déchets agroalimentaires. Et l'innovation est le prix coup de cœur Digital Energy Facility, remporté par l'Ivoirienne Nora Monet. Plus de détails encore dans ce dossier d'actualité proposé par Ghislain Koulibaly.
Sous des applaudissements bien nourris du public,
j'ai la joie et l'honneur de remettre le prix Challenge Up Afrique de la 8e édition à Divin Kwaba Kuta. Félicitations.
Vincent Fleury, directeur des environnements numériques à France Média Monde, annonce le lauréat de l'édition 2024. Sur plus de 720 candidatures soumises, 10 ont été sélectionnées et 3 retenues pour la finale. Parmi tous ces concepts innovants figure la Green Box de Divin Kwaba Kuta.
C'est le genre de chambre froide que nous mettons à la ferme dans les zones rurales reculées qui n'ont pas accès à l'énergie. Et ça permet aux agriculteurs de conserver leurs produits. Et dans cette même dimension, nous avons aussi installé les chambres froides au niveau des marchés. Ça permet que les mamans, auparavant, qui vendaient à la va-vite leurs produits, peuvent avoir un espace pour stocker leurs produits.
À la fois communautaire et écologique, le projet de Divin Kwaba Kuta va même au-delà du Congo-Brazzaville et vient répondre à plusieurs besoins en Afrique. Jeanne Richard, journaliste environnementaliste à RFI et membre du jury.
C'est un projet qui est adapté au changement climatique. Donc ça, c'est une chose. Et moi, ce que j'ai aimé en particulier, c'est que c'est un projet qui est communautaire. On a 7 chambres froides pour le village. Ça, c'est une question qui est au cœur du fonctionnement, au cœur de la vie des Africains en Côte d'Ivoire et ailleurs dans les autres pays.
L'autre prix majeur de ce Challenge Apafrique, c'est le coup de cœur énergie numérique remporté par Nora Monet. Elle s'est penchée sur la contribution des langues locales ivoiriennes pour faciliter la compréhension des enjeux énergétiques en zone rurale. Son projet s'intitule GreenEd.
Il faut pouvoir se former pour pouvoir développer des compétences et puis faire la bonne transition vers l'énergie verte. D'où l'idée de pouvoir proposer des contenus de formation en langue locale pour permettre à toute cette population-là de pouvoir bénéficier de cours et de développer des compétences techniques dans ces domaines-là, dans la langue, à travers des contenus accessibles, audio, vidéo et jeux ludiques.
En Côte d'Ivoire, de nombreuses réformes sont en cours pour accroître le développement des start-up et cela pourrait susciter l'éclosion de solutions durables. Rokia Fofana, directrice de cabinet adjointe au ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation.
Le gouvernement ivoirien a adopté des mesures législatives fortes visant à favoriser l'essor de l'écosystème entrepreneurial. Je veux citer donc la loi sur les start-up, également connue sous le nom de Start-up Act, qui a été promulguée à la fin de l'année 2023.
À l'heure où la transition énergétique se présente comme une solution face au réchauffement climatique, le numérique offre plusieurs opportunités à explorer.
Nous en arrivons à l'invité de la rédaction où Jean-Claude Comé reçoit le sous-directeur de l'inspection et de la surveillance du marché pharmaceutique à l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP. Dr Nguessan Bosson, Jean-Marie revient sur l'interdiction de la production et la commercialisation des produits dénommés Atoté et la paix.
Dr Nguessan Bosson, Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Monsieur Comé.
L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a produit récemment un communiqué pour alerter sur l'utilisation de produits Atoté et la paix. Alors pour commencer, quel est le rôle de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique?
Merci Monsieur Comé pour cette opportunité que vous nous offrez d'éclairer la population ivoirienne. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, en abrégé AIRP, a été créée par la loi numéro 2017-541 du 3 août 2017 relative à la régulation du secteur pharmaceutique. Donc, cette loi donne donc à l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique la mission de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, des produits de santé de façon générale pour la population ivoirienne. Mais c'est depuis mars 2020, que l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique est véritablement opérationnelle.
Alors justement, une telle autorité qui voit le jour est partie de quel constat, de quelle nécessité?
Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a une historique. Après l'indépendance, on parlait de ce qu'on appelle service de pharmacie installée au sein du ministère de la Santé. Ensuite, avec l'évolution, elles ont été transformées en direction de la pharmacie du médicament. Et puis après, direction de la pharmacie du médicament et des laboratoires, face à la recrudescence du marché illicite et afin d'assurer pour la population ivoirienne, une meilleure surveillance du marché pharmaceutique, des garanties de médicaments de qualité sûre et efficace pour ces mêmes populations. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine, a d'abord mis en place un règlement demandant aux États de faire évoluer la direction de la pharmacie et du médicament en autorité indépendante. Donc, c'est dans cette volonté politique que la Côte d'Ivoire a abouti à la création de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, qui est une autorité administrative indépendante.
Alors, cette structure qui est l'AIRP vient donc de publier un communiqué pour suspendre la commercialisation de produits contenant du sildenafil. D'abord, c'est quoi le sildenafil?
Le sildenafil, c'est un médicament qui est issu de la synthèse chimique. C'est-à-dire que dans la production des médicaments, on est arrivé à formuler ça de façon chimique.
Cette substance, donc le sildenafil que vous citez dans ce communiqué, en quoi cette substance est incriminée?
Alors, ce n'est pas le sildenafil lui-même qui est incriminé, mais ce sont les produits Atoté et la paix. Ici, le problème, c'est que je dis, je fabrique un médicament à base de plantes. Or, quand nous faisons un contrôle qualité dans le cadre de la surveillance du marché pharmaceutique, les résultats nous montrent qu'il y a des substances chimiques, notamment le sildenafil. Cette substance chimique n'est pas issue de plantes, mais issue d'une synthèse. Cela veut dire qu'on a introduit de façon volontaire dans ces préparations un autre médicament qui est issu de la chimie et qui n'est pas une plante.
Au-delà de ces deux substances, hein, c'est le cas donc d'Atoté et puis de la paix, est-ce que vous avez un regard aussi sur les autres substances qualifiées de naturelles qui sont vendues?
Tout à fait. Ce n'est pas une action dirigée contre ces deux produits. Mm-hmm. Aujourd'hui, sûrement, ça défait la chronique parce que ces produits sont un peu populaires. On a fait un live streaming tant des produits qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire que des produits qui sont importés en Côte d'Ivoire. Et c'est un vaste travail qui a démarré depuis plus de 2 ans. Et ce sont les résultats que vous voyez là. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs, avec le croisement des différents résultats réalisés tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que nous avons publié cette décision. Mais soyez rassurés, c'est un vaste travail d'évaluation qui continue sur des produits fabriqués en Côte d'Ivoire et importés. Et au fur et à mesure que les résultats probants seront disponibles, l'AIEP prendra la décision les plus adéquates.
Et vous notez dans votre communiqué que la consommation de ces produits cités plus haut occasionne donc des maux de tête, des vertiges et bien d'autres risques comme l'AVC. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
Quels sont les moyens que vous donnez justement, puisque ces produits sont sur le marché, pour récupérer tous ces produits? C'est vrai, pour l'instant vous alertez, mais les produits sont en vente.
Alors, on enjoint ces producteurs et tout autre distributeur de procéder au rappel et à la destruction dans les meilleurs délais de leurs produits. Ils doivent prendre toutes les dispositions pour faire cesser la production et la délivrance au public des produits précités. C'est très important. Donc, les fabricants, les distributeurs de Atoté ou la paix doivent procéder au rappel, donc retirer du marché leurs produits et procéder à leur destruction. Leurs activités sont suspendues jusqu'à leur mise en conformité avec la réglementation pharmaceutique. Par ailleurs, nous invitons la population de s'astreindre à consommer ces médicaments.
En tout cas, merci à vous, Dr Nguessan Bosson Jean-Marie, pour ces éclairages.
Merci, M. Comé.
Dr Nguessan Bosson Jean-Marie, sous-directeur de l'inspection et de la surveillance du marché pharmaceutique à l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP. Invité de la rédaction aujourd'hui, il était avec Jean-Claude Comé, un entretien qui met un terme à notre journal dont voici le rappel de l'essentiel. Un projet de loi modifiant la loi portant code de la nationalité a été adopté hier par le Sénat ivoirien afin de lutter contre la fraude sur la nationalité, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sanson Kambilé, que nous avons eu en début d'édition. Et puis sur le continent, des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont tué au moins 25 civils dans la ville de Darfour Nord, selon une organisation non gouvernementale. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce 12h. Retrouvons-nous à 15h pour un flash d'information. Mais en attendant, retrouvez tout de suite Francis Cassi pour sa revue de presse.
Bonjour à tous. Ouvrons notre examen de vos journaux de ce mercredi par la dette ivoirienne dont il parle. Assemblée.